I'd like to have a democracy.
Élections départementales 2015 qui se dérouleront les 22 et 29 mars prochains, qui éliront les futurs conseillers départementaux et qui remplaceront les conseillers généraux. On est aujourd'hui avec Alban Euzel, collaborateur du groupe Front National au conseil régional, conseiller municipal d'Arras et conseiller communautaire à la CUA. Bonjour.
Bonjour.
Vous représentez le Front National avec votre binôme Daniel Dolander, professeur d'anglais retraité, qui n'est pas présente aujourd'hui, sur le canton donc d'Arras 1, qui regroupe 13 communes, dont Arras-Ouest, Mareuil, Dainville, Neuville-Saint-Va, entre autres. Alors, on va tout d'abord parler du redécoupage de ce canton, à la fois urbain et rural. Quelle est votre opinion à ce sujet ?
D'abord, par rapport à cette réforme territoriale, nous sommes assez critiques. Puisque déjà c'était, je me demande si c'est pas un charcutage électoral vraiment politicien, voilà, pour essayer de freiner l'ascension du Front National. On a redécoupé selon les résultats électoraux des dernières élections, voilà, parce que ce découpage ça veut pas dire grand chose. Après, concernant même la réforme en elle-même pour les compétences, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais les compétences sont pas encore définies pour le conseil départemental. Je trouve que c'est un peu dommage pour une élection, on fait participer les gens à une élection pour élire donc les conseillers départementaux, mais nous ne savons pas quelles seront nos compétences au final. Donc ça témoigne un peu de l'amateurisme et du gouvernement actuel.
En ce qui concerne le mouvement associatif, hein, qui joue un rôle irremplaçable au sein de notre démocratie, comment envisagez-vous d'apporter concrètement votre soutien aux associations citoyennes en charge de l'éducation populaire ?
Évidemment, nous soutenons les associations puisque c'est un lien social, comme vous venez de le dire. Maintenant, c'est sûr qu'il faut faire des économies. Voilà, ça, on peut pas. Ça, c'est un peu la conséquence un peu des politiques d'austérité au niveau du gouvernement, puisque il y a la baisse des dotations, comme vous savez, au niveau des collectivités territoriales. Et donc, ça, c'est la conséquence des politiques menées par l'UMP et le PS. Et donc, il faut faire avec. Donc faut faire des choix. Voilà, quand on fait la politique, il faut faire des choix. Et certaines associations verront certainement leurs subventions diminuer. Alors nous, au Front National, on a une ligne de conduite. Ça veut dire qu'on souhaite éviter tout clientélisme et également de subventionner des associations communautaristes. Donc déjà, c'est un premier tri. Mais après, voilà, il y aura des choix à faire, c'est sûr. On ne pourra pas satisfaire tout le monde.
Vous revendiquez également une politique en faveur des plus âgés avec la revalorisation de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Vous pouvez en dire plus sur cet engagement ?
Si vous voulez, il y a beaucoup de petits retraités qui souffrent. Voilà. Ils ont du mal à finir les fins de mois. Et ça, nous dénonçons le fait qu'il y ait des gens qui ont travaillé toute leur vie. Et à la retraite, ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Ils doivent aller au Resto du Cœur. Et ça, c'est intolérable dans un pays comme la France en 2015. Donc, il y a possibilité de les aider. Après, il faut faire des économies. Vous savez, on peut faire des économies par rapport au gaspillage, au niveau de la gestion, au niveau du département aussi, par rapport à la régie directe. Par exemple, certains contrats pourraient être gérés directement par département plutôt que passer par des entreprises privées. Il y a différentes façons de faire des économies et de bien gérer le budget départemental.
Vous souhaitez également lutter contre le communautarisme dans les structures départementales en charge de la petite enfance, les crèches entre autres et les écoles maternelles, avec notamment l'idéologie de la parfaite maîtrise du français pour les personnels. C'est un peu tendancieux comme propos, qu'est-ce que vous entendez par là ?
Nous sommes en France, c'est normal que tout le monde sache parler le français correctement, et c'est aussi une façon d'intégrer, d'assimiler les gens, voilà, ceux qui viennent chez nous dans notre pays, s'ils veulent vraiment s'assimiler, s'intégrer à la population française, il faut qu'ils puissent parler correctement français. C'est aussi leur rendre service.
Et vous prenez aussi la laïcité, interdiction des signes religieux comme le voile à la crèche et les autres signes ostentatoires.
En l'occurrence, ce qui fait débat aujourd'hui en France actuellement, c'est le voile. Voilà, parce que c'est ce qu'il y a de plus visible. Après, on ne va pas interdire les signes vraiment très discrets. On peut avoir même une masse Fatima ou une croix, voilà, et ça c'est pas gênant. C'est vraiment les signes vraiment ostentatoires, comme le dit la loi.
Votre programme évoque également les collèges qui seront normalement gérés par le département et la mise en place de caméras de vidéoprotection. C'est pas un peu alarmiste comme mesure ?
Bah écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de parents qui nous rejoignent et qui souhaitent que leurs enfants soient protégés. Et c'est pas une surveillance pour surveiller, c'est vraiment pour protéger les gens, les collégiens, parce qu'il y a toujours des possibilités de trafic de drogue ou même de raquettes. Quand il y a des enquêtes pour aider des jeunes en difficulté, ça peut aider. Alors maintenant aussi, c'est des dispositifs, je vous dis, c'est toujours conditionnel parce que le gouvernement n'a pas encore établi les compétences au niveau des départements. Donc voilà, on ne sait pas si vraiment les collèges, certaines dispositions, certaines compétences vont venir au département. Donc là, on est un peu dans le flou. Voilà, c'est pour tout le monde pareil.
Alors, à part ce fait que les collèges émettent des caméras de vidéosurveillance, il n'y a pas énormément de choses pour la jeunesse dans votre programme. Hein. J'ai beau regarder, je ne vois pas grand-chose.
Bah, il y a des associations, il y a différentes propositions que nous faisons, mais encore une fois, je vous le dis, tout n'est pas clairement défini. Donc, on ne peut pas s'avancer vers des promesses en l'air tant que nous ne savons pas si vraiment la jeunesse, ça ne va pas aller au niveau du conseil régional. On ne sait pas encore. Voilà. Donc, concernant la jeunesse, si, je pense qu'au niveau des collèges, c'est vraiment là où le département peut agir. Encore une fois, si vraiment les collèges restent dans les compétences du département.
Vous affirmez également soutenir la ruralité. Par quels moyens vous comptez apporter ce soutien au monde rural ?
Écoutez, la ruralité, moi je parle vraiment de rural délaissé. Voilà. C'est vraiment la France des oubliés. Et bon, il y a différents moyens pour aider les Français dans le milieu rural. Alors évidemment, par rapport au service public, c'est vraiment assurément une bonne continuité du service public. Et c'est vrai que pour les transports, c'est pas toujours le cas, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits. Je sais pas moi, les personnes âgées, comme vous avez des exemples tous les jours, qui prennent le bus le matin pour la campagne pour aller à Arras, doivent attendre le bus pour revenir le soir. Voilà, il y a des moyens de transport qui sont encore à revoir. Il y a quand même encore en 2015, certaines zones en France, dans le milieu rural, les zones sont très isolées. Bon, après, il y a toujours les histoires aussi avec le téléphone internet, où c'est le bout du monde quand on y va. Mais ça, les Français au quotidien connaissent ces problèmes.
Alors, en termes de transport, par exemple, qu'est-ce que vous préconisez pour pallier à ce manque ?
Bah c'est par rapport au bus, la continuité, voire par rapport aux horaires, qui est plusieurs allers-retours quand on est en milieu rural et qu'on souhaite aller à Arras, que si on veut faire ses courses à Arras, on ne soit pas obligé par exemple de venir le matin et attendre le prochain bus 6-7 heures après. Voilà. Il y a plusieurs façons de réorganiser les choses.
Et bien évidemment, les sondages nous vendent un peu le Front National à pratiquement 30% au premier tour. Comment vous expliquez un peu cette montée ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les attentats du mois de janvier ont joué par exemple en faveur du Front National ?
Non, moi je pense pas. Moi je pense que c'est vraiment sur le long terme. Les Français veulent vraiment une alternative. Ils voient de plus en plus qu'il y a une différence entre le Front National d'un côté, qui souhaite vraiment protéger les Français avec du protectionnisme et du patriotisme économique, tandis que de l'autre côté, vous avez l'UMP et le PS qui ont tout déréglementé, qui avec l'Union Européenne sont soumis à l'ultralibéralisme. Et évidemment, les premiers qui souffrent, c'est les Français les plus faibles, les pires traités, on en parlait juste avant, dans le milieu rural. Donc forcément, voilà, c'est ça qui, je crois, les Français commencent à ouvrir les yeux et voient vraiment la différence entre le Front National d'un côté et l'UMPS de l'autre.
En revenant sur le monde rural, et bien évidemment, beaucoup d'agriculteurs sont financés par la PAC, qui est évidemment fournie par l'Europe. Et vous préconisez de sortir de l'Europe. Quelle alternative vous proposez ?
Vous savez, la PAC, mais en réalité, ça vient, l'argent vient d'où ? Et ça vient du contribuable français. C'est nous qui finançons l'Union Européenne actuellement. L'argent ne fait que transiter par l'Union Européenne et revient après en France. Nous voulons une politique agricole française. C'est-à-dire que l'État français qui décide lui-même, qui finance lui-même ses agriculteurs. C'est ça que nous voulons. C'est ça qui est un peu hypocrite par certains, c'est qu'ils parlent tout le temps de l'Union Européenne. Mais il faut savoir que la France est contributeur net. C'est-à-dire que nous dépensons plus que ce que nous recevons de l'Union Européenne. Donc au final, nous perdons de l'argent. Par an, nous perdons 7 milliards. Voilà. Donc il faut remettre les choses à plat et nous préférons que ce soit l'État français qui aide, qui intervienne auprès des agriculteurs en France.
S'agissant de l'accueil des migrants, et plus particulièrement des mineurs et des jeunes majeurs, quelles mesures préconisez-vous pour qu'ils puissent être accueillis dans des conditions décentes et respectueuses des droits de l'homme ?
Écoutez, ça déjà, bon, je ne sais pas si c'est vraiment une compétence au niveau du département, puisque c'est pas, tout n'est pas encore vraiment défini, c'est plutôt à l'État d'agir. Et ça justement, on observe une certaine lâcheté de l'État qui laisse la situation pourrir, je pense notamment à Calais. Mais ça, c'est un problème d'ensemble, si vous voulez. Il faut déjà dire, être ferme au départ, dire qu'on ne peut pas accueillir les gens. C'est-à-dire que s'ils violent la loi, ils viennent en France alors qu'ils ne sont pas invités, ils seront expulsés. Qu'ils n'auront pas droit à d'aide, parce que déjà on a du mal à aider les Français, comme vous voyez actuellement avec les petites retraites ou dans le milieu rural, il y a beaucoup de difficultés. Donc voilà, il faut que les gens sachent que s'ils viennent en France, ils n'auront droit à rien. Voilà. Il faut être dissuasif.
Votre électorat aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment, comme vous le dites, la France délaissée, les pas de bol, les pas de chance.
Là, c'est les Français, non, il y a les Français qui travaillent, mais qui ne se sentent pas récompensés par le fruit de leur travail. Voilà. Les Français qui souhaitent vraiment s'en sortir et que, leurs enfants aient un avenir meilleur que le leur. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on voit des gens et ils ont le sentiment que leurs enfants auront un avenir moins favorable qu'eux. Et ça, c'est pour l'espoir dans un pays, c'est vraiment c'est lamentable qu'on en soit arrivé là. Voilà. Et là, c'est pour ça qu'il faut changer de gouvernant. Et là, les élections départementales, c'est aussi un signal fort qu'on peut lancer au niveau national à nos gouvernants.
Vous préconisez également une gestion saine de l'argent public, baisse des budgets de communication, stabilisation des effectifs, lutte contre la fraude au RSA. Pouvez-vous m'en dire plus sur ces points ?
Alors oui, ben déjà la gestion au niveau conseil départemental, puisque moi je prends un exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, on avait changé de logo, conseil général, voilà. C'est le triangle. Et donc voilà, moi ça m'avait marqué à l'époque, bon, ça remonte à quelques années, mais j'étais dit vraiment, on va faire une dépense pareille. Au final, c'était à peu près le même logo. Simplement, ils avaient rajouté trois petites barres dans le triangle. Quand on sait qu'après, ils ont dû remodifier les logos, dans tout, les imprimer sur les panneaux dans le département, ça, bon, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça coûtait quand même un certain prix. Et donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là que bout à bout, on peut faire des économies. Et le RSA, forcément, là, il y a des choses à faire, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de fraudes, même les autorités le reconnaissent. Et donc, il y a des contrôles à faire pour vraiment aider les Français, vraiment, qui le méritent, voilà, qui ne profitent pas de l'assistanat. Mais que le RSA, ça leur permet voilà, de sortir un peu la tête hors de l'eau. Et ouais, mais il y a des contrôles à faire de ce côté-là. Il y a beaucoup d'économies à faire pour vraiment aider les gens qui en ont réellement besoin.
Vous vous présentez avec votre binôme Daniel Delander. Comment vous allez vous répartir le travail si vous êtes élu ?
Écoutez, elle connaît bien le milieu rural puisqu'elle y habite, donc je pense que les questions rurales, ça va l'intéresser. Et puis elle est femme d'agriculteurs, voilà, donc elle connaît bien ces problématiques. Moi aussi, je m'intéresse au milieu rural, mais c'est vrai que bon, j'habite en ville, donc forcément, je connais aussi les quartiers ouest d'Arras, donc je vois les difficultés sociale notamment dans ces quartiers, donc voilà, je pense que déjà territorialement on arrivera déjà à se répartir les tâches.
Quartier Ouest justement, on va en parler. Quelle est votre position sur la reconstruction de la mosquée à Nour, à Arras Ouest?
Écoutez, si c'est... moi je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait voilà, des financements étrangers. Alors maintenant si la mosquée est financée par les fidèles, voilà, je ne m'y oppose pas, on a le droit d'avoir son lieu de culte, moi ça me gêne pas, voilà. Maintenant je veux pas non plus qu'il y ait des mosquées cathédrales, voilà. Je veux qu'il y ait un certain équilibre avec l'espace environnemental autour dans les habitations. Je pense qu'il faut penser aux riverains de la mosquée, qu'ils soient musulmans ou pas, voilà. Donc c'est ça qu'il faut que ce soit des bâtiments à taille humaine. Et puis après voilà, ceux qui veulent construire, souvent c'est ceux qui souhaitent tout le temps la construction de mosquées, ce sont des gens qui habitent dans les beaux quartiers et qui n'admettraient pas d'avoir un gros bâtiment, une mosquée cathédrale à côté de chez eux. Voilà. Donc il faut aussi arrêter l'hypocrisie de ce côté-là.
J'aimerais également avoir votre avis concernant si vous avez entendu parler de ce collectif anti-mosquée qui s'est créé récemment.
Non, je n'en ai pas entendu parler. Non, je n'en fais pas partie.
En ce qui concerne le dérapage du suppléant du candidat sur le canton d'Arras 2, Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il n'y a pas que dans la région, hein, mais un peu partout en France qu'ont lieu ces dérapages.
Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, puisque ça fait, on va dire, en France, ça peut être une quinzaine de personnes voilà, qui ont dérapé. Quand on voit sur 8000 candidats, vous admettrez quand même que ce n'est pas non plus énorme. Hein. C'est 0,1% des candidats. Il faut savoir que dans les autres partis, il y a eu des propos même bien pires. Voilà. Et les autres partis, nous, la différence, c'est qu'on exclut quand il y a des soucis. Dans les autres partis, vous avez des gens qui sont élus, réélus, malgré des propos qu'ils ont pu avoir et des propos condamnables. Donc je ne vais pas vous faire la liste des gens, je ne suis pas là ce matin pour ça, des gens de l'UMP ou du PS qui ont dérapé, et des gens, mais aussi des gens qui ont dérapé, qui sont toujours en place actuellement. Voilà. Concernant Arras 2, je me suis déjà exprimé chez vos confrères dans la Voie du Nord, j'ai rien d'autre à ajouter à ce sujet, évidemment je condamne les propos, et j'ai rien d'autre à ajouter sur cette polémique.
Quand même, vous parlez de candidats qui sont maintenus dans les autres partis. Apparemment, le Front National a quand même maintenu sa confiance à Chantal Clamer, hein, la candidate qui est dans l'Ariège et qui avait quand même tenu des propos assez... l'islam et les mahométans sont la nouvelle peste bubonique du XXIe siècle. C'est quand même pas rien.
Écoutez, concernant cette affaire-là, je ne l'ai pas suivi, je vous avoue, dans cette personne de l'Ariège. Donc après, je pense que... Il y a une commission de discipline au Front National, donc s'ils estiment qu'elle doit être exclue, elle sera exclue. Voilà. Mais ça ne dépend pas de moi.
C'était Alban Euzel du Front National, candidat dans le premier canton d'Arras pour les élections départementales. Je vous rappelle que ces élections se dérouleront les 22 et 29 mars prochains. Les autres candidats en lice pour ces élections dans le premier canton et que vous entendrez prochainement dans Info 30 sont deux autres conseillers généraux sortants, Françoise Rossignol du PS et Bertrand Alexandre du MRC qui représentent la liste La Majorité Départementale dans le Pas-de-Calais, Laure Olivier et Didier Bror pour Europe Écologie Les Verts. Et vous avez déjà pu entendre vendredi dernier dans Info 30 Denise Bocquier, membre de l'UDI et conseillère générale sortante, associée à Daniel Damard de la ligne Divers Droite.
Honest.